Merci Tiffaine et bon week-end. Poésie, prolétaire, gesticulation et bobine. Ça lutte, classe, reclasse et déclasse aujourd'hui avec le poète Charles Penquin, le critique d'art François Piron et un salut à Emmanuel Occard avec l'écrivain et critique Xavier Persan.
La compagnie des poètes. Par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Charles Penquin, Xavier Persan, François Piron, bonjour, bienvenue à tous les trois. François Piron, critique d'art et commissaire d'exposition. On vous doit notamment un parcours Raymond Roussel attrapé par les arts plastiques, ça c'était au Palais de Tokyo en 2013, et un esprit français saisi par ses bords et sa contre-culture à la Maison Rouge il y a 2 ans. Contre-culture toujours à la fondation d'entreprise Ricard, à Paris, le temps d'une exposition jusqu'au 23 février, dont vous assurez le commissariat. Titre « Poésie prolétaire ». Au programme, 3 femmes artistes, performeuses, ramenées des années 70 et des marges de l'histoire, et 3 artistes trentenaires. Et à L6, une généalogie fictive qui dirait « Une autre histoire de l'art est possible ». Poésie prolétaire, comme ça tombe bien Charles Penquin, c'est aussi et d'abord, à quelques lettres près, le nom d'une brève revue montée en 97 par le poète Christophe Tarkos et Cataline Molnar, revue à laquelle vous avez participé, on va en reparler bien sûr avec François Piron, mais d'un mot, qu'est-ce qu'il s'agissait d'y défendre ou d'y attaquer, si vous vous en souvenez, Charles Penquin?
Ce qui était développé là-dedans, c'était l'idée de retravailler la langue. En fait, je pense que Cataline Molnar, qui était un peu l'initiatrice de ce projet avec Tarkos, avait écrit déjà un texte qui s'appelait « Conférence pour les illettrés ». Donc, en fait, elle voulait faire une littérature ou une poésie qui parlerait à tout le monde. En fait, je pense il y avait ça. Il parlait, je me souviens, je n'ai pas rouvert la revue depuis longtemps, donc, mais je me rappelle qu'il parlait, par exemple, d'Arte Povera. Et puis, dedans, il y avait des textes trouvés. Il y avait des textes de gens, plus. Et puis, des choses d'artistes plus confirmés ou pas connus. Il y avait, par exemple, Gilles Volman, qui, pour moi, est un poète très, très important.
Lettriste.
Ouais, lettriste, compagnon de Debord, celui qui a développé aussi la théorie du détournement. Et puis, Lars Koch, pour moi, c'est quelqu'un, c'est une sorte de Duchamp de la poésie, en fait, Volman.
Alors, Charles Penquin, donc j'en reviens à vous et vos 25 ans de poésie, performance, lecture, livre, dont Dedans en 99, puis Bibi, Bibine, mon binôme, La vie est un trou, Comprendre la vie ou Pamphlet contre la mort, chez Aldente, chez POL, aux éditions de l'Attente, mais aussi lecture ou improvisation, enregistrée, filmée, ici ou là, sur téléphone, dictaphone, répondeur, sur le bord de la route, sur un quai de gare, dans un bar, et aujourd'hui, un possible roman, Gabinot les bobines, qui paraît aux éditions POL. Un roman, disons, à toute vitesse, ou presque, avec tout un tas de personnages, de lieux, de familles, de petites histoires, de collectes. Et puis Gabinot, héros absent autour duquel tourne ce roman manège. Petite précision, peut-être avant de commencer, je citais quelques titres, Charles Penquin, Bibi, Bibine, mon binôme, mais aujourd'hui les bobines. Est-ce qu'il faut y entendre une affaire sonore, une affaire de registre, de figure, qu'est-ce qui se trame dans ces affaires de bibine, de bobine?
Bah, les bobines, c'est un mot qui me poursuit depuis très longtemps, effectivement, que je ressors là pour à l'occasion de ce bouquin, mais qui est vieux en fait. J'ai écrit plein de textes, même inédits, sous le nom de Bobine. J'ai publié même un CD sous le nom de Bobine, et puis après je tournais effectivement autour avec Binôme, avec Bibine, avec plein de noms comme ça. Parce que voilà, c'est une obsession, c'est un mot qui est sonore en fait. Et puis Et puis en fait, un jour comme ça, je voyais la dernière bande de Beckett. Je sais pas si vous vous souvenez. Et en français, en fait, bon, c'est sûr que ça n'a pas été écrit au départ à la base en français, mais dans la pièce de théâtre, souvent il dit bobine, comme si en fait il faisait sortir un mot de sa bouche et on voyait vraiment ce mot qui sortait comme. Je sais pas, c'était une obsession, comme un bonbon en fait, voilà.
Voilà. Alors avant de tâcher de trouver Gabino, Charles Penquin, un salut aux poètes, traducteurs, éditeurs, photographes, enseignants et même anthologistes Emmanuel Occart, disparu, tout juste disparu, à l'âge de 78 ans. Un salut avec vous, Xavier Persan, avant qu'on lui consacre, hein, ce qui ne saurait tarder, prochainement une pleine émission. On l'écoute.
Alors c'est sur ce mur-ci. Mais celui-ci, il y a les portraits des grands détectives du siècle. Vous êtes quand même dans le bureau d'un privé, un peu particulier. Mais... Bon, il y en a un qui n'est pas du siècle, hein, qui est une espèce d'ancêtre des détectives, c'est Montaigne, qui est au bout, parce que comme ça. Et puis ensuite, il y a Deleuze. Ensuite, il y a Reznikov, l'objectiviste américain. Ici, il y a Wittgenstein. Ici, c'est Gertrude Stein. Et ici, c'est évidemment Raymond Chandler. Et j'ai mis Reznikov entre Deleuze et Wittgenstein pour pas qu'ils se battent la nuit. Alors, moi, je me sentirais plutôt de ce côté, côté de celui qui enquête et qui essaye de défaire plutôt que de construire quelque chose. C'est dans ce sens que je dis privé. Au fond, un privé tel que celui auquel je m'identifie, entre guillemets, ce serait quelqu'un qui serait incessamment confronté à trois types de difficultés d'approche, et puis en même temps il y a trois pierres de touche, la logique, l'éthique, la poétique. Ça se joue sur c'est un peu ce trépied.
La voix d'Emmanuel Occart au micro de Colette Fellous dans Carnet Nomade, c'était sur France Culture en février 2002. Reznikov qui l'a traduit, Deleuze, Wittgenstein, Chandler, bien sûr, plus Montaigne, hein, qui sont ses portraits alignés sur les murs du bureau. Qu'est-ce qui se jouait, Xavier Persan, pour lui, au fond, dans cette posture de détective, de privé même, hein, pour être plus précis, posture qu'il reprend à son compte?
Il part toujours sur le principe qu'il y a toujours quelque chose de louche. Et donc, au départ de chacun de ses livres, il y a un travail d'élucidation. Mais il y a aussi le fait que la figure du privé, donc du roman policier, il a joué contre la poésie. C'est-à-dire qu'il a découvert la poésie contemporaine dans les années 70, avec effectivement une posture moderniste, mais en même temps négative. Il s'agissait d'aller contre le surréalisme et d'apurer la poésie et la mettre en question. Mais il a bien vu très vite que ces questions qui étaient assez formelles, formalistes, finissaient par le lasser. Il a connu plusieurs crises, notamment lors d'un séjour aux États-Unis à Iowa en les années 80, puis après la Villa Médicis en 86. Et là, il s'est mis à lire les romans policiers contre la poésie, puisque toujours la question pour lui, c'était finalement de sortir du format poésie, format littérature, et de comment arriver à, comme il le disait, faire le crabe dans la littérature, donc faire un pas de côté et essayer effectivement d'élaborer des stratégies de ruse pour éviter d'être pris dans la grammaire, parce que c'est vraiment son ennemi principal, c'est la grammaire. Je l'ai rencontré, je suis allé le voir en mars.
Enfin, son ennemi,
c'est... Moi, je l'ai vraiment entendu. On a parlé beaucoup, là, c'est au mois de mars, je suis allé le voir pour parler de son travail, et il disait toujours que la grammaire, c'était son drame. C'était son drame intime. Et s'il radicalisait un peu cette vision à la fin, la grammaire dans laquelle il se sentait pris, dans ses mots d'ordre, toute cette rumeur, hein, de parler, c'est toujours entendre quelque chose qui nous viendrait par oui dire, selon lui. Et donc, on est pris dans les règles de la grammaire, dans les mots qui sont véhiculés. Donc, il y avait chez lui, mais viscéralement, au-delà de toute discours critique, je ne sais pas si c'est au point de départ, mais en tout cas, à l'arrivée, il y avait cette, euh, cette méfiance farouche face à tout ordre du discours.
Un soupçon, donc, comme au fond ce qui nous revient encore à la position du privé, mais sur cette question de la grammaire, je pense par exemple à Mahé. On peut aussi y voir quelque chose qui ferait de la grammaire, peut-être pas une alliée, mais en tout cas un ferment.
Bah, évidemment, après, c'est toujours un peu dialectique, ces questions. Puisqu'en même temps, il est bien conscient du fait qu'à trop scier la branche sur laquelle il était assis, il pouvait tomber. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose chez lui de presque un peu mystique dans ce désir comme ça d'une poétique un peu négative qui vient critiquer la grammaire tout en avançant effectivement des énoncés. Alors, ce qui le sauvait de cette question-là, c'est la question de l'humour, de l'enfance, le sens de l'anecdote, et d'une poésie en mode un peu mineur qui a cherché des petits récits, des petits riens du quotidien et qui était pas du tout dans une prétention métaphysique ou intellectualiste sur la grammaire. C'était plutôt des stratégies de ruse enfantine.
Dans le petit extrait qu'on a entendu, il en a souvent parlé, de ce panthéon comme ça, au mur, à ses murs, il s'arrête un temps, Emmanuel Lecard s'arrête un temps sur Reznikov, le poète objectiviste américain, qui l'a traduit. Se placer dans les pas de Reznikov et se placer dans les pas de Reznikov et des objectivistes à ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 80, c'était se placer dans quelle histoire ?
Il y a quelque chose de très, très simple pour lui, c'est la question du littéral. C'est-à-dire qu'il raconte que dans son enfance, étant amoureux d'une jeune fille, plutôt que de lui écrire des lettres d'amour, il lui recopiait des livres qu'il lui envoyait. Et donc plutôt pour échapper à la littérature, à une idée d'une spontanéité littéraire et donc au risque d'être pris dans le format littéraire, il y avait l'idée plutôt de recopier. Il disait qu'il rêvait d'être le copieur de ses propres livres. Donc forcément, la stratégie de Reznikov qui visait à recopier les actes des procès américains l'intéressait dans cet écart, dans cette distance que créait l'acte de recopier. Donc il y a vraiment ça qui lui a beaucoup plu chez les objectivistes. Et puis, je pense que la poésie américaine, au moment où il a rencontré dans les années 70-80, ça venait ouvrir un autre espace par rapport à la poésie française. Et c'est vrai que la poésie américaine, il disait que traduire la poésie américaine, c'était ouvrir un espace, une zone blanche sur la carte, avec des territoires qui seraient encore vierges.
Est-ce qu'on peut y voir aussi quelque chose comme, en tout cas ce rapport à la poésie objectiviste et aux objectivistes, une forme d'horreur du flou ? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, pour ce qui est d'Emmanuel Lecard, de la netteté de...
Oui,
son
il y avait ce qu'il appelait la ligne claire, sachant qu'il disait aussitôt que la ligne claire était très très obscure, parce qu'en fait c'est jamais si clair que ça. Et il y a aussi chez lui des zones d'obscurité. Il y a le sens de l'énigme. Il y a quelque chose d'un fond d'angoisse quand il parle de ce qu'on n'a pas encore parlé de son rapport à Tanger, qui a fondé toute sa poétique, son enfance à Tanger.
Qu'il a grandi.
Il a grandi à Tanger, donc, qui était une cité internationale jusqu'en 56. Et donc, le rapport qu'il avait à la langue française était dans un rapport d'étrangeté aussi, de cette enfance. Donc, il y avait, la grammaire lui était aussi un peu imposée par l'école. Et donc, le rapport à la langue était un peu, comme ça, c'est dans un mode un peu académique qui a fondé un peu sa méfiance sur la langue. Il a cette capacité à la fois se référer à la ligne claire d'Hergé, par exemple, avec la netteté de l'analyse de Wittgenstein. Donc, il y a effectivement ce désir de précision. Mais en même temps, il y a aussi, à force de précision, quelque chose qui devient énigmatique dans la formulation minimale.
Alors on écoute Emmanuel Lecard, le temps d'une lecture, c'est un extrait de sa première élégie, paru dans Élégie chez POL en 1990, réédité en Poésie Gallimard en 2016, élu au Centre Georges Pompidou, c'était pour France Culture en septembre 2001.
L'automne vint dans la nuit du 5 août, probablement avec les premières clartés du matin, à l'heure où le ciel se couvre de sel et bascule dans un infranchissable présent en marge du sommeil. Sur ces courts espaces sans illusion, plus anciens que le petit jour de n'importe quel été, où l'on pouvait penser qu'allaient cesser les va-et-vient, et qu'il a pourtant fallu mettre tant d'années à situer, comme le moment précis où la rivière est vraiment rivière, le temps n'a rien modifié, au contraire, sinon ravivé à peine dans les veines indifférentes, le ressac des premières discordances. Mais elle n'a pas sa place ici, la mesure que prend du voyage le marchand, tailleur boutiquier habitué des docks, une fois assuré la cargaison de toile ou d'huile, dans ce port-ci et sur ce registre-là, oui, là, le noir, à portée de la main, voilà, au rythme des grues de fer jaune et des palans.
Alors ça, c'est une pratique de au moins 20 ans, en tout cas celles qui ont été réunies, hein, c'était de 69 à 89. Alors ça peut paraître suspect, pour le coup, que de travailler l'élégie pour quelqu'un comme Emmanuel Hocquart, mais élégie qui refuserait soupir, regret, affect, qui refuserait la plainte, au fond, qu'est-ce qui reste quand on retire la plainte de l'élégie ?
On peut quand même dire positivement qu'il avait, il était latiniste au départ, donc il avait une grande
connaissance. On peut le dire.
Il était très, très impressionné par, par Lucrèce, donc il y a un rapport direct à l'élégie. Et en même temps, effectivement, il se positionnait comme élégiaque inverse, disait-il. Donc il s'agissait pas, le travail qu'il avait sur l'archéologie, c'était pas pour reconstituer un passé ou être dans un mode du souvenir. Parce qu'il croyait pas du tout qu'il puisse dire « je me souviens » à mesure où le premier pronom lui paraissait un peu suspect. Donc il y a ce travail de remémoration attentive, mais à travers les énoncés. Il ne s'agit pas d'être dans du récit, mais plutôt d'attraper des énoncés, des fragments de phrases qui sont agencés pour travailler l'un contre l'autre et sans chercher à se joindre, mais plutôt pour attraper ce qui se fait dans la disjonction.
Non, mais moi, Charles, ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, effectivement, le privé, enfin tout ce qui pouvait sortir de la poésie, tous ces questionnements de poésie, mais qui, à un moment donné, sont un peu lourds, je trouve ça très intéressant, parce que Gabineau, j'ai pensé à Simenon, j'ai pensé à du polar, quoi, aussi, donc, ouais, parce que ça a quelque chose qui manque, en fait, c'est une parole, en fait, laissée de côté, peut-être même par la poésie, alors que la poésie devrait s'occuper des paroles, justement, des petites paroles, des petites choses comme ça. Chez Simenon, il y a beaucoup de choses sur les petites gens et tout, donc c'est ça qui m'intéresse. C'est aussi l'enquête, c'est aussi des questions de logique. Chez Agatha Christie, tout ça, il y a des trucs de logique, on cherche le coupable et tout. Donc je vois bien sa recherche à lui en parallèle de la littérature, des questions littéraires, des grosses questions, lyrisme par lyrisme. Quand j'ai découvert la littérature, je connaissais que les poètes morts, en fait. Hein. Donc, j'étais arrivé au maximum, c'était Michaud, quoi. J'étais à la pointe, là. Et d'un seul coup, je vais à une médiathèque et je vois une lecture de Jean-Michel Maulepoix. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le lyrisme à fond. Je prends un flyer et je trouvais que c'était très proche de ce qu'écrivait Christian Prigent. Parce qu'il y avait une forme qui me paraissait moderne. Oui, ça peut paraître étonnant, mais quand on n'a jamais connu un poète vivant, ça, on tombe sur le cul.
Hocquart, passeur, donc, éditeur, enseignant à Bordeaux, et puis de 77 à 91, hein, à la direction du département de littérature contemporaine de l'art, qui va programmer longtemps, longuement, richement, des lectures qui vont marquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de poètes. Je ne sais pas si vous en êtes, Xavier Persson, si vous aviez eu l'occasion d'assister à ces différentes lectures. J'imagine qu'on n'a pas fini, on commence juste à mesurer, au fond, l'apport pluridisciplinaire, justement, et comme poète et comme passeur, de quelqu'un comme Emmanuel Hocquart.
Lui-même a été dans une démarche très pragmatique. Il dit qu'il avait appris la poésie en étant éditeur de poésie, en travaillant vraiment sur la typographie, en étant les mains dans le cambouis, si je peux dire. Il a appris la poésie américaine en la traduisant. Et donc, il était dans cette visée très, très empirique. Ses poèmes, finalement, il faut les lire indépendamment de tout ce qu'il peut en dire. Pour nous, il dit qu'il faut apprendre à désapprendre. Hein. C'est comme ça qu'il citait le poète américain. Donc, face à ses poèmes, on est aussi face, comme des enfants, face à quelque chose qu'il nous faut apprendre à reprendre tout le temps. Donc on n'a pas un savoir constitué chez Hocquart, vu sa stratégie comme ça d'évitement de tout enquistement académique. Donc c'est un travail qu'on va pouvoir recommencer à lire Hocquart comme si on ne le connaissait pas, en effet, oui.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manon Farid.
Alors, pour en venir à vous, Charles Penquin, et à Gabineau, les bobines, hein, qui paraît aux éditions POL, on aurait pu commencer par écouter Une archive de Prigent, peut-être, ou éventuellement du lettriste Gilles Volman, que vous venez de citer, ou de Charles Péguy, si ça avait existé. Péguy, d'ailleurs, à qui vous avez consacré un petit livre. Qu'est-ce que vous aviez reconnu chez lui? Ça m'intrigue. Oh ben,
La langue, l'écriture, quoi, en fait. Sa façon dont il écrit, comment il écrit dans la prose, en fait. Cette espèce de répétition, en fait. Pour moi, il y a quelque chose qui est... On a connu Gertrude Stein, et ben pour moi il y avait quelque chose chez lui qui était très steinien chez Péguy. Quand il veut enfoncer une idée, il répète. Alors avec aussi quelque chose qui vient du cœur, il a un certain amour pour ses personnages, pour les gens, même pour Dieu. Dieu, c'est une petite Jean, en fait. Tout le monde, il parle de ce, voilà, des personnes, toujours avec un certain amour. Il y a très peu ça, en fait, dans la littérature. Mais avec l'idée toujours d'enfoncer le clou. Quand il parle de, par exemple, de Halévy, qui avait écrit un livre sur l'antisémitisme, peut-être le premier livre, je crois, je sais pas. Il en parle, c'est extraordinairement beau, en fait. Et il parle de lui, en fait, quelque part là-dedans. Il parle finalement de l'Antiquité, du monde chrétien et du communisme qui devait arriver et qui n'est pas arrivé. Donc, en fait, il reprend tout ça, il essaye d'expliquer. Alors, lui reprochait, d'ailleurs, de pas comprendre ce qu'il voulait dire, finalement. On lui reprochait beaucoup, parce que quand on lit ses proses, quand on lit Notre Jeunesse, quand on lit... Deuxième Élégie 30, quand on lit des livres comme ça, je pense qu'il faut plus le lire, il faut pas lire ses poèmes, il faut plus lire, parce que ses poèmes, souvent les sonnets ou les trucs comme ça, c'est il a un tel amour pour Victor Hugo qu'il refait du Victor Hugo, en fait. Et ça lui va pas, le cadre ne va pas, parce que ça respire pas assez là-dedans. Lui, il faut une respiration, il faut une coulée, il faut quelque chose qui aille au fond, et puis dans le fond, il trouvait un autre fond, etc. Toujours continuer. C'est infini, c'est épuisant de lire... Péguy, donc c'est pour ça que je me retrouve là-dedans.
Pas de Péguy, donc Charles Penquin, mais une autre voix que vous avez souhaité faire entendre, et c'est celle-ci.
Moi, j'ai été malheureux, un peu de misère dans ma vie, j'ai eu de la misère. Et c'est même d'ailleurs pour ça que j'ai changé ma vie, moi. Mais pas du mauvais sens, par exemple, mais du bon sens. J'ai changé ma vie, puis après, quand t'as vu ma bonne approche, j'ai changé ma vie.
Comment ça veut dire quoi, changer sa vie?
Changer sa vie, c'est-à-dire qu'on ne veut pas toujours rester dans la misère dans la vie, hein. Alors, il a fallu changer sa vie dans sa vie sur une autre condition, sur une autre vie.
Comment vous avez fait, vous, alors?
Comme j'ai changé ma vie pour le machin de la colle de la brute, mes œuvres. Et en commençant en mars 64, mes premiers physiques, j'ai changé ma vie. Et puis, je me suis mis à faire le machin artiste, et puis ça m'a changé ma vie. Et j'ai continué, et puis après, depuis ce temps-là, ça n'a jamais bougé.
C'est ça qui vous a rendu heureux, alors?
C'est ça, oui. Mmh. Avec pas grand-chose. Puis après, je me suis mis dans l'instrument de musique, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais me mettre dans le machin d'instrument de musique. Et ça m'a changé un peu ma vie, mon vieux. Mmh. Ça m'a éliminé un peu la misère, et puis hop, j'ai changé ma vie avec l'art et tout ça, et voilà. Ça m'a fait disparaître un peu la misère dans ma vie que j'avais, puis j'ai changé ma vie. C'est ça.
Ça vous a fait rencontrer des gens, c'était quoi?
Et voilà, ça m'a rencontré des gens, et puis voilà, puis ça l'a tout bouleversé dans ma vie. Ça m'a changé ma vie.
Et c'est quoi qui vous a dit de faire le premier fusil?
C'est moi.
Mais comment ça vous est venu? Vous savez,
c'est
venu
par moi-même. J'ai commencé par un petit truc comme ça, à bricoler, comme ça, le bricolage. C'est comme tous les artistes qui commencent à faire quelque chose, et puis toi, et puis hop, les tableaux, tout ça, ça a changé. Vous rendez compte? Un petit machin d'avoir commencé pour grand-chose, sans s'en rendre compte, avoir commencé par un petit truc comme ça, sans savoir, imaginable. Et puis j'ai continué tout ça, puis c'est... Ça l'a grandi, j'ai monté, puis à force, vous savez.
André Robillard, qui se met donc dans le machin, ses sculptures, ses fusils, ses bombardiers, son oiseau, son accordéon, et puis Robillard qui donc a changé sa vie. Qu'est-ce que vous vouliez faire entendre par cette voix-là, Charles Penquin?
L'art brut. Les écrits dans l'art brut font partie du dessin, en fait. Thévose les a détachés, mais finalement, c'est un art. Donc pour moi, la poésie, ça fait partie de l'art, ça fait pas partie de la littérature, si vous voulez. C'est l'écriture, c'est contre la littérature, c'est contre un certain langage, c'est contre les discours, c'est contre la surface des discours, des expressions, des commentaires, de tout ce qui s'exprime, s'imprime et qui déprime, au fond. Voilà.
Alors, je voudrais revenir, Charles Penquin, à Robillard, parce que c'est aussi un nom avec, c'est un peu comme Bobine, hein, une sorte de jouissance à le prononcer, un peu comme la kyrielle de noms que vous égrenez dans Gabineau les Bobines, hein, qui est un roman foule, pour le moins, paru chez POL, des noms, des surnoms même, hein, plein la bouche. Il y a là Gégène, Lulu, le père et la mère, Charlie, mais aussi Diouf, le ruisselant, Mona, tante Francine, tonton Henri, des tas de tatas, des tas de tontons, mamie Reine, la marchande de boudin, Valonia, la chichette, Paco, Mimi, 80 livres, Nono, et encore et encore et encore. Est-ce que vous voulez bien, Charles Penquin, nous faire lecture ?
À la fin de son certificat, tonton Henri, le mari de tante Charlotte, fait tuyauteur et tonton Henri Duez, le mari de tante Francine, est menuisier au Zinzic à Bouchain. Tout le monde travaille au Zinzic ou alors à la cimenterie et il y a les corons du Zinzic où tonton Henri et tante Francine vivent comme tante Charlotte et l'autre tonton Henri car les beaux-parents de tante Charlotte sont aussi au Zinzic. Personne ne paye dans le coron du Zinzic puisque c'est au Zinzic et tante Charlotte et tonton Henri vont ensuite vivre à Mastin car le beau-frère et la belle-mère à tante Charlotte qui étaient au Zinzic vont à Mastin parce que le grand-père se meurt. Le grand-père de la Chichette a un frère que la Chichette appelle Riton la Godasse, et Riton la Godasse est un immigré espagnol qui part à Paris faire le maquereau. Un jour, il tue l'amant d'une prostituée, il est jugé et part comme forçat à Cayenne. Mimi, que son beau demi-frère préfère appeler la tigresse, a une naturopathe qui lui dit « Vous êtes la réincarnation de Riton la Godasse ». C'est à Mémère Louise qu'écrit Gégène pour lui rendre visite à Mazingarbe. Alors tonton Jean emmène tout le monde dans sa traction pour aller voir à Mazingarbe où Gégène est né en 1926. Il y a Mémère Louise, Mémère Blanche et Mémère Soleil qui fabriquent des arcs et des flèches quand les enfants débarquent chez elle. Mémère Soleil, c'est la femme du Père Soleil qui est un ami de Mamie Reine. Le Père Soleil vient souvent voir toute la famille à Tain-Saint-Père. On le voit même qui pose avec Madame Spon, la voisine, devant la traction, ainsi que les voisins et le fils de tonton Jean. En arrière-plan du groupe, il y a les maisons en briques rouges entourant la voyette qui mène au canal. Mamie Reine, à cette époque-là, fume comme un sapeur. Pire que tante Ray, dit tante Marthe. Elle jette ses cendres partout. Et tante Marthe a beau mettre des cendriers ici ou là, elle jette malgré tout, mais avec une certaine distinction, ses cendres par terre. Elle travaille à Paris et a une bonne pension car son mari était chef porion, c'est-à-dire qu'il dirigeait tous les porions dans la mine. Elle travaille dans les hôpitaux et chez les chirurgiens. Elle n'a peur de rien et fourre son nez un peu partout. Elle écrit d'ailleurs à Madame Yvonne de Gaulle qui envoie un colis à Lulu, puis Mémé fait acheter une salle à manger ainsi que les meubles de la chambre à coucher pour le couple qui vient de s'installer dans la rue Neuve. Son mari se trouve sans doute à Audierne, c'est pour ça qu'elle le rejoint avec Gégène qui porte des journaux avec son vélo, puis les FFI contre une petite pièce lui donne des papiers qu'il cache dans ses bidons pour les transmettre à d'autres villages. C'est Irène qui fait connaître Gabineau à Gégène, mais tante Marthe pense que Gabineau n'est pas d'Écodin, mais plutôt d'Audierne, à moins qu'il ne soit tout bonnement parisien.
Charles Penquin, merci. Gabineau, les Bobines, une foule donc de noms, de surnoms, de noms de famille, de noms de lieux, avec lesquels vous jouez aussi, où il y a manifestement aussi jouissance à les lister et peut-être même à les dire, à les écrire ou à les lire. Une foule d'anecdotes aussi, beaucoup, de petites anecdotes, de petits gestes, hein, de petits moments du quotidien, des petits bouts de phrases par lesquels on va s'approcher petit à petit de ce personnage, de ce Gobineau, l'absent, hein, le trou, pour reprendre un motif qui vous est cher, qui est approché justement par toute cette foule de personnages qui l'ont plus ou moins connu et qui ont des liens plus ou moins flous avec lui. Est-ce qu'il y aurait au fond quelque chose de l'ordre de la collecte, hein, dans ce roman qui semble avancer comme ça par petits bouts ?
Oui, mais je l'ai écrit au fur et à mesure, phrase après phrase, avec le grand vide derrière, en fait, en écrivant comme ça, en cherchant. J'avais juste cette pensée de Gégène qui était avec Lulu dans la 4L. dans la 4L de Lulu, parce que c'est Lulu qui conduit, et
qui ouvre le roman. Hein.
Voilà, et ça l'ouvre sans arrêt, parce qu'en fait, ça revient tout le temps à cette scène-là, quoi, en fait, de Gégène, qui n'a pas osé aller voir son ancien copain, et on ne sait pas qui c'est Gabino, voilà, donc... Au fur et à mesure, on imagine qui ça pourrait être Gabino. Donc, à un moment donné, rentre dans l'histoire un adjudant de gendarmerie qui est bossu. Son père également était bossu. Et puis, il a connu, quand il a fait la guerre d'Algérie, une famille. Donc, cette famille rentre dans l'histoire également. Et donc, au fur et à mesure, comme ça, on a l'histoire de cette famille du Nord. Et puis, après, on a les histoires dans la gendarmerie, les collègues. Et puis, après, on a l'histoire de la Chichette avec sa famille, les pieds noirs, l'Espagne. L'Espagne qui revient souvent. En fait, moi, je me rendais compte que finalement, il y avait une sorte de logique parce que l'Espagne était centrale. Gabino est espagnol. On s'en rend compte à un moment donné, à la fin. Et puis, il y a ces familles de Bordeaux, de l'Espagne, tout ça, qui rentrent dans le jeu. Mais c'est des souvenirs, c'est aussi des paroles, des échanges, des discussions que j'ai pu avoir avec plusieurs personnes dans la famille et dans d'autres familles. Et j'ai mêlé ça au fur et à mesure, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours... que j'ai toujours eu envie, enfin de plus en plus j'avais envie de faire un livre sans qu'il y ait de pathos, sans qu'il y ait de réflexion, sans qu'il y ait de philosophie, sans qu'il y ait de pensée, juste des faits et des paroles parce que c'est ça qui m'attire en fait. Pour moi c'est ça qui m'attirait par exemple dans l'Armée Noire, l'idée de l'Armée Noire.
Faut peut-être rappeler ce que c'est que l'Armée Noire.
Alors l'Armée Noire c'était un groupe, on va dire, d'artistes, de gens comme ça, qui à chaque fois évoluaient, changeaient, selon les lieux, et où on voulait, en fait, faire de l'écriture, faire de la performance, amener des sérigraphes, faire de la danse, et faire des choses avec les gens. Par exemple, à Dunkerque, qu'on avait fait avec les carnavaleux, on est allé dans les bars lire, on faisait des affiches, on a amené, on a fait des trucs avec les enfants, avec les... Et parce que l'idée, au départ, pour moi, en tout cas, c'était l'Armée Noire, c'était un nom. C'est quelque chose que disait ma mère quand j'étais enfant, qui me disait « ne fréquente pas ces gens-là, c'est de l'Armée Noire », c'est-à-dire un grouillement de gens pas propres, hein, un grouillement armé et noir parce que sale, en fait. Hein, et il y avait tout un quartier comme ça à Cambrai qui s'appelait l'Armée Noire. Donc c'est les petites paroles dont on veut pas entendre, qu'on veut pas entendre parler, on veut pas en entendre dans la grande littérature, dans le roman, dans tout ça. Ou alors il faut en faire un truc sociologique, il faut tout de suite basculer vers la sociologie, faire des portraits, réfléchir, etc. Et donc tuer l'écriture quelque part. Moi ce que je voulais c'est qu'il y ait une écriture, qu'il y ait quelque chose qui se fasse avec les phrases comme ça, que les phrases se rencontrent.
Qu'est-ce qui vous travaille tant, Charles Penquin, dans la parole de l'autre? Parce que bon, alors vous en avez déjà souvent parlé, que il vous arrive, alors je ne sais pas si c'est une pratique que vous avez toujours, hein, mais de noter ce que disent les gens autour de vous, qui était probablement, alors j'imagine une façon de les fixer, mais peut-être aussi une façon de disparaître, je suppose, ou quelque chose un peu de cet ordre-là. Est-ce que c'est une pratique?
Oui, c'était une pratique. C'était une pratique. C'en était un peu une là, mais c'était surtout une pratique. À un moment donné dans ma vie, mêle toutes les sortes de paroles. Là. L'autre, ça pouvait être la télé, hein, ça pouvait être, c'était tout. C'était toutes sortes de paroles qui arrivaient. C'était en fait réagir contre l'étouffement généralisé de la phrase et de la parole et du langage, quoi. En fait, hein, c'était des trucs qui envahissent. En fait, on veut en sortir en réécrivant. Hein, c'est-à-dire piquer des choses dans la bande pour que cette bande-là, à un moment donné, on en fasse quelque chose, qu'on en jouisse aussi à notre manière. Sinon, le collègue, toutes les paroles comme ça, ça pouvait devenir étouffant. Donc, c'est réagir contre l'étouffement généralisé, quoi, en fait, de tout ce langage, en fait, et d'en faire de la poésie, d'en faire une écriture. C'est piquer dans la bande passante du vivant. Et j'avais pris ça parce qu'à un moment donné, j'étais dans l'informatique, donc il y avait la bande passante, la fameuse bande passante. Mais je me dis, voilà, il y a cette bande passante de la parole, du vivant, qui passe sans arrêt dans l'air et qu'on n'accroche pas. Et on est ballotté là-dedans, mais ça c'est le cut-up, hein. Le cut-up c'était ça aussi, hein. C'était une manière politique de réagir à la parole envahissante des systèmes brutaux de société, quoi, en fait, hein. C'est la brutalité des systèmes, donc comment on fait pour réagir contre ça? On écrit, quoi. Ben, pour ma part, on écrit, on peut réagir autrement, hein, politiquement, etc., mais pour ma part, c'était m'en sortir en ressortant ça à ma manière dans l'écriture, dans la parole, dans le vivant, quoi, en fait.
Quand vous dites bande passante, Charles Penquin, on vous a entendu, on l'a entendu à la lecture aussi, hein, de l'extrait de Gabinou les Bobines, ce texte est écrit sans virgule. Hein.
Oui.
Aucune, si j'ai bien regardé.
Il est écrit sans virgule, il est écrit sans temps non plus aussi, parce qu'il y a au départ...
Des temps multiples en tout cas.
Ouais, voilà, mais je remets tout au présent en fait, quelque part. Beaucoup, il y a beaucoup de présent en fait. C'est-à-dire on ne sait pas trop si c'était il y a 20 ans, il y a 40 ans, sauf quand ça parle de la guerre. Bon, effectivement, ou ça parle des maoïstes, on peut se situer un peu.
Il y a quelques repères quand même, voilà. Mais voilà. Avec des sauts, avec des retours.
Ouais, ouais.
Avec,
Et donc la virgule, à un moment donné, ouais, je l'ai fait sauter tout un tas de trucs, parce que je voulais justement que par exemple deux événements contradictoires peuvent se rencontrer dans une phrase, si vous voulez, comme les... Vous savez, les trucs où on fait tourner les particules, vous voyez, on les fait exploser, quoi, en fait. Hein, on les fait se rencontrer à grande vitesse. Bon, là, c'est ce que je voulais un peu. Et en même temps, ça exigerait au lecteur de ralentir, en fait. Lui, il a peut-être le devoir, enfin, je sais pas, il a peut-être une obligation à un moment de ralentir pour piger quelque chose. Quand les gens changent sans arrêt de surnom, etc., pour essayer de reconstruire, refaire une carte, une cartographie de ce qui se passe, de quels sont les gens, où sont les familles, etc. Parce que, comme vous disiez, là, ça va vite, mais en même temps, peut-être il faudrait ralentir, quoi. Comment on fait, quoi?
On vient de vous entendre, Charles Penquin, donc lire un extrait de Gabinou les Bobines, et vous me disiez hors antenne, parce qu'en fait, alors pour tout vous dire, l'extrait qu'on a entendu, c'est un extrait que je vous ai... imposé, hein, je le dis avec toute la douceur possible, vous en aviez choisi un autre, et je me demandais ce que c'était que de mettre en bouche hein, ce texte-là, du lien qu'il avait même déjà dans l'écriture, puisqu'on parlait de cette absence de virgule que vous avez fait sauter, si c'est une absence de virgule qui vous fait écrire, ou que vous avez retiré par la suite, et qui déjà projette son oralité, ou s'il s'agit, lorsque vous lisez, de réécrire ce que vous avez écrit.
Il faut réécrire, mais en même temps, là, cette forme que j'ai choisie, ça m'a permis effectivement de continuer, mais continuer le livre, en fait. Hein. Pour moi, la lecture, c'est une autre publication. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir réécrire le texte, il va falloir le repenser pour l'espace, pour les gens, pour un public. C'est ça, la poésie-action, en fait. Poésie-action, c'est pas que soi qui rentre en action, mais l'autre aussi. C'est-à-dire que comment il le reçoit... Comment la poésie frontalement, elle agit, comment elle vit. Enfin, j'ai pas lire. En fait, moi, je ne sais pas lire. En fait, au fond, je ne sais pas lire parce que ce qui est important, c'est une écriture de la bouche. En fait, comment on fait? Parce que souvent, j'ai fait des improvisations avec le dictaphone ou avec la vidéo. Que ça, c'est quelque chose qui est logique de A à Z. Il y a rien à refaire. En fait, ça marche très bien. Ça sort directement dans la bouche, ça reste pas dans la tête. Là, c'est une écriture qui est un peu dans la tête et dans les doigts. Hein, c'est avec les doigts que j'ai écrit, c'est avec la tête et les doigts, et avec peut-être une bouche intérieure, mais en même temps, il faut que je retrouve un autre élan, faut que je le réécrive, ce truc, ce passage, ces passages-là.
Par exemple, là, la lecture que vous venez de nous faire. Hein.
Ouais, c'est pas mal, mais je me suis entraîné avant, vous m'avez permis de m'entraîner, donc du coup... La deuxième lecture était mieux, mais après, je ne sais pas si c'est le bon ton. Peut-être qu'il faudrait que je fasse autrement. C'est la gesticulation aussi, dans la phrase, quoi. Le geste est important, le corps, il est là. Il est hyper important, le corps et la voix et le texte, quoi.
Gesticulation, c'est un terme que vous utilisez souvent, oui. Charles Penquin, pour désigner soit effectivement la poésie-action ou ce qu'on appelle la performance, et vous lui préférez ce terme de gesticulation. Qu'est-ce qu'il dirait de plus ou de moins que la performance?
Il est plus drôle. Hein. Puis moi, je pense à Jarry, opinion, geste et opinion, c'est ça, du docteur Faustrol, quoi. Les gestes et opinions, ça appelle à la danse, quoi, en fait.
J'ai un problème, voilà, qui est très explicite. J'ai un problème, voilà, qui est très explicite et complètement collé. J'ai un problème, voilà, et complètement explicite, c'est complètement collé ensemble tout, parce que tout ce qui est collé, c'est-à-dire tout ce qui sort de ma bouche, j'ai remarqué, est collé. C'est-à-dire, j'ai un problème, c'est complètement explicite. C'est-à-dire, je ne dis pas, c'est un problème, et après, je dis, c'est complètement explicite. J'ai dit, d'un coup, c'est un problème, c'est complètement explicite. C'est-à-dire, c'est d'un seul coup. Quand je fais une tirade, n'importe quelle tirade, la tirade, elle est collée. Mais elle est collée à quoi? Je me demande si c'est pas à l'intérieur de ma bouche que c'est collé. Voilà. C'est sauf que quand je me tais, c'est plus collé.
La voix de Christophe Tarkos, j'avais en tête aussi, j'imagine que tout le monde a en tête, nombre de performances ou de lectures publiques qui circulent sur YouTube. On en est ravis par ailleurs, parce que ça permet aussi de faire circuler Tarkos, mais dans lequel on voit, on entend en tout cas un rapport au public assez particulier. On entend des rires, beaucoup, énormément de rires. Et puis le jeu aussi de Tarkos avec le public. Charles Penquin, vous qui dites que la performance peut ou devrait pouvoir se passer de public, qu'est-ce qui se joue ou qu'est-ce qui se jouait au fond entre Tarkos et le public hein?
Moi, je l'avais vu une fois à Dijon. Il m'a dit, j'ai jamais fait une improvisation d'une demi-heure. Donc il avait un réveil, hein, on avait été acheter un réveil, poser le réveil, il fallait que ça fasse une demi-heure. Donc il y avait quelque chose comme ça, une tension, et donc on le voyait plus pendant un moment, quoi, avant qu'il rentre en scène, il disparaissait. D'un seul coup, il apparaissait. Déjà, c'était surprenant de voir apparaître comme ça. Hein, il y avait quelque chose quand même, avec le théâtre, hein, vraiment, mais un théâtre qui a compris Fluxus, quoi, en fait. Et la musique contemporaine, parce qu'il y avait quelque chose de très musical aussi, d'un rythme musical, comme ça. Il était très au courant de la musique savante. Il était comme une sorte de clown blanc, quoi, comme ça. Il y a Prigent qui en parle très bien de ça, quand il l'a découvert en 93. Il en parle très bien de quand Tarkos est apparu. Il est apparu sur scène, en fait. Il parle même pas des textes, il parle de l'apparition de Tarkos sur la scène, comme ça, qui a marqué un tournant.
Travailler de partout, la poésie, c'est aussi ce qui vous occupe, au fond, François Piron, dans l'exposition Poésie prolétaire à la Fondation d'entreprise Ricard. Alors Tarkos, son ombre très lointaine, hein, plane sur l'exposition, à commencer par le titre, qui fait écho à la revue Poésie prolétaire, hein, donc, qui avait été imaginée par Tarkos notamment, mais aussi par Catherine Molnar. En 97, une revue furtive parmi tant d'autres dans ces années-là. Hein, j'imagine que Charles Penquin pourrait nous en parler, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup dans les années 90, hein, auxquelles vous avez participé. Deux de ces numéros de Poésie prolétaire, alors il faudrait peut-être que je précise qu'il ne s'agit pas de la même orthographe, hein, Poésie P-O-E-Z-Y, prolétaire sans E à la fin, avec des accents aigus et graves, se plaçait sous le signe de Poésie prolétaire et en utilisant ces deux numéros que vous montrez dans l'exposition, sous vitrine, ça voulait dire quoi? Est-ce que ça avait office de programme, de mot d'ordre, de fétiche, de prétexte lointain?
Alors d'abord, quelque chose qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que Poésie prolétaire, pour moi, c'est aussi une revue qui mettait à égalité des auteurs de poésie et des artistes. Et qui avait dans le trio qui
un
organisait.
Un graphiste, hein, bien sûr.
Pas un graphiste, un artiste.
Un artiste.
Pascal Doury.
Mmh. Et que
c'est ça que je retiens, surtout. C'est cette horizontalité qui n'était pas fréquente, néanmoins, dans toute la pléthore de revues qui pouvaient exister. Une revue qui mettait vraiment à plat, à page égale. Et pas forcément chacun dans sa catégorie, parce que Doury a aussi publié des textes dans la revue. C'était pas chacun son truc. Les dessinateurs dessinent, les poètes font des poèmes. Moi, je suis complètement en empathie avec ce que disait Charles tout à l'heure. C'est la poésie. C'est à considérer comme une forme d'art, et on peut dire réciproquement, l'art, c'est intéressant si c'est à considérer comme une forme de poésie. Effectivement, le lien avec Poésie prolétaire, la revue, dans l'exposition, c'est une évocation, c'est une invocation, et c'est l'occasion de revaloriser des mots. Revaloriser, voilà, le mot de poésie pour des pratiques artistiques, et le mot de prolétaire pour les inscrire dans quelque chose qui serait justement pas voilà les grands discours, les sentences, les péroraisons, mais quelque chose de plus spontané, de plus direct, de plus en lien avec des vies et aussi leur parcours. Moi, je pense que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quand je fais des expositions de raconter aussi des vies d'artistes et d'essayer de montrer des sortes de modèles. Donc c'est comme ça que j'ai proposé à trois jeunes artistes de mélanger leurs travaux avec trois vies d'artistes plus constituées, certaines même terminées, parce qu'il y en a deux qui sont décédées aujourd'hui, Thérèse Bonnel-Albet, dont on parlait tout à l'heure, et puis Lydie Mercier-Desclous. Et puis, voilà, au départ de cette exposition, il y a d'abord l'envie de montrer le travail qui reste très souterrain, très inconnu encore de Joël de la Casinière, avec laquelle donc on a travaillé à imprimé 18 manuscrits qui ont été faits entre le milieu des années 70 et aujourd'hui et qui n'ont pas été publiés et qu'on imprime, qu'on donne à lire, de montrer une pratique qui...
Dans l'exposition, on peut s'installer pour consulter, lire
dans
ces manuscrits.
C'est autant à voir qu'à lire, en fait, parce que c'est justement un grand mélange de quelque chose qui lit complètement et horizontalise complètement la poésie et le dessin. Et je pense que c'est aussi le fil un peu formel de l'exposition, c'est considérer ces deux tracés cursifs comme étant assez équivalents, l'écriture et le dessin, et comment l'un peut prolonger l'autre.
Vous dites poésie, enfin écriture et dessin, alors pas seulement, quoique c'est peut-être encore la même chose, au centre de l'exposition, hein, puisque vous en parliez, vous projetez So Happy, qui est un court film projeté au mur, qui est une sorte de une sorte de teaser magnifique à voir vraiment, hein, qui met en scène donc Joël de la Cassinière en 73, au moment où sort son livre, ou je pense que c'est peut-être juste après la sortie de son livre, enfin au moment de la sortie de son livre qui va paraître chez Minuit, hein, en 73, son livre absolument nécessaire. Donc elle filme comme ça une espèce de vrai faux pitch, hein, parce qu'en fait c'est une fiction de livre qu'elle est en train de raconter dans son teaser. On écoute.
Mademoiselle, it's so good to have you here in a minute. No, no, another take. Mademoiselle, welcome, mademoiselle, welcome to America. Camera,
rolling.
Take four. Just let her roll.
Alors, je marche un peu à côté comme ça.
Yeah.
Voilà. Et on prend le bras.
Yes.
Là.
Good.
Et
that's
alors.
Better.
On parle de livre. We must talk about the
yes.
book.
Yes,
un livre que j'ai copié dans le métro à New York.
Yes.
Et qui a 270 pages.
Oui.
Et qui va être publié. Et j'ai passé 2 ans dans le métro à New York.
Oui.
Pour copier tous les wagons. Et ça marche.
Yes.
Do you understand?
Not a word.
Entonces, ¿por qué no dices? Je cherche un pays cadeau, où tout est permis. New York, entre le rêve et l'éclair. We got me, we got many. Sun flashes on a knife blade. And I'll miss you, and I've missed you, people.
Petit extrait, hein, du film, je précise, remonté par François Connac, réalisateur de l'émission. Donc on y voit Joël de la Cassinière en robe longue, cheveux longs, laissés libres, pieds nus, circulant dans les rues de New York, faisant mine même d'arrêter un métro aérien, et puis dans une espèce de mise en scène de faux entretien, je ne sais pas exactement quels étaient véritablement les enjeux de ce film-là pour elle, mais qu'en tout cas, vous placez au centre, François Piron. Est-ce que placer ce film-là au centre du parcours de l'exposition, est-ce que c'était exposer d'abord une pratique, un rapport au monde, un rapport à la création ?
C'était introduire déjà du mouvement, une parole. Un film dont on voit qu'il a été fait vraiment très très rapidement, et c'est ça que Joël m'a raconté. Elle, Et ils ont fait ce film en une journée, ils ont récupéré une caméra et ils l'ont monté en une nuit. C'était dans l'énergie de l'écriture de ce livre absolument nécessaire, dont il faut dire que c'est le seul qui a été publié.
Sur les conseils de Deleuze.
Voilà, l'histoire c'est que Joël, elle faisait de la peinture jusqu'à, en tant que jeune artiste, à la fin des années 60. Et puis, le désir de voyager a primé sur la sédentarité de la peinture. Elle a tout vendu pour se payer un billet d'avion et pour partir. Et donc, elle a, en vivant de manière assez nomadique pendant plusieurs années, il a fallu qu'elle trouve une configuration de travail qui s'adapte à ce bagage léger. Et donc, c'est devenu ce mélange de dessin, collage, écriture, qui a donné un manuscrit. Ce manuscrit, elle l'a envoyé... connaissait personne, elle a envoyé à tous les auteurs qu'elle admirait, sans avoir de contact particulier. Elle en a envoyé un à William Burroughs, elle en a envoyé un à Deleuze, et puis Deleuze, voilà, par hasard et par miracle, l'a présenté à Jérôme Lindon en lui disant bah, « voilà ce que font les jeunes gens aujourd'hui, il faut absolument que tu publies ça ». Et ça s'est fait. Et ce film, c'est un peu une blague, pour annoncer la sortie du livre, elle fait cet entretien fictionnel où elle raconte un peu n'importe quoi, que le livre est fait d'un recopiage des graffitis dans le métro, ce qui n'est pas complètement vrai. Elle voulait envoyer ça à Bernard Pivot, à apostrophe. Pour moi, c'était vraiment juste un signe d'énergie, en fait, dans l'exposition, de comprendre que ces gestes-là sont faits avant tout dans la plus grande spontanéité, pas forcément avec beaucoup de niveaux sous-jacents. Oui.
Sont confrontés à ces trois artistes, à ces trois aînés, dont deux ont disparu aujourd'hui. Ils sont confrontés trois jeunes femmes, confrontés. Oui. Il n'y a pas forcément question
non,
de tension,
même,
en tout cas, c'est même l'inverse.
Ouais.
Donc je pense à Carlotta Bailly-Borg, à Anne Bourse et à Mélanie Matranga, donc toutes les trois qui sont venues un petit peu bénéficier justement de cet élan vital, de cette énergie pour produire à leur tour une œuvre. Et je me demandais, ces trois artistes-là sont là, j'imagine, aussi pour dire une position d'artiste. Et est-ce que cette exposition-là, au fond, elle est là aussi pour... produire un discours sur ce que serait que la position d'artiste aujourd'hui.
Ouais, pour poser des idées sur des vies d'artistes, moi, plus je vieillis, plus je m'intéresse à comment on dure, en fait. C'est pas l'idée de faire carrière, mais c'est l'idée de comment on continue les choses. Après, j'ai pas d'intérêt pour la sociologie plus que ça, mais quand même de s'intéresser à comment certaines artistes disparaissent à un moment et que personne se pose la question. Je me dis aussi que c'est peut-être lié en partie à certains statuts sociaux qu'on octroie ou pas à des artistes, à des femmes artistes peut-être en particulier. Très souvent, on se dit que tu vois, l'image d'un homme artiste, c'est acquis, que jusqu'à 95 ans, il va être là au travail. Ça, c'est complètement inscrit dans la culture. Mais les femmes artistes, c'est moins étonnant quand elles quittent le navire au milieu du gué. Et ça m'interroge toujours. Donc c'était le cas, par exemple, pour Thérèse Bonnel-Albet, de se demander pourquoi cette artiste-là, elle a été cantonnée à une réception dans l'art brut et qu'on pourrait peut-être la regarder aussi autrement. C'est le cas aussi pour Lydie Mercier-Desclous, donc qui est une figure à la fois culte pour sa carrière de chanteuse, de musicienne, culte aussi, mais culte et underground. Voilà, au détour d'une phrase, on apprend qu'à partir des années 90, elle s'est consacrée à la peinture, puis on n'a jamais rien vu. Et moi, c'est ça qui m'excite, et je me dis, tiens, mais... Où tout ça? Et puis on se rend compte que oui, c'est tout dans une maison de campagne, que personne en fait ne s'y est jamais vraiment intéressé, et que même si pour certains de ses proches ça a une valeur affective, ils n'ont pas non plus forcément senti la nécessité de le sortir et de l'éprouver avec un public, enfin de le considérer au fond vraiment comme une pratique artistique.
Et au fond, quelle généalogie fictive, alors François Piron, d'autant plus fictive que les trois jeunes artistes ne connaissaient pas le travail de leurs trois aînés avant l'exposition. Quelle généalogie fictive est-ce que ça pourrait tresser, qui s'appuierait sur quoi?
Cette idée de généalogie imaginaire, c'est quelque chose qui a pour but de... peut-être d'encourager des jeunes artistes à ne pas être trop assujettis à ce que les discours du monde de l'art voudraient leur faire dire, leur faire faire, comment on se conforme à un certain nombre de tendances, de... Et les encourager à suivre leur pente. Je crois que c'est ça qui est un peu l'exemple donné par ces artistes qui, en n'étant ni véritablement dans le monde de l'art, ni véritablement dans le monde de la poésie, mais un peu des deux, et en tout cas c'est intégralement partie de leur pratique, elles ont fait ce qu'elles pensaient absolument nécessaire, justement. Et je crois que c'est le seul bon conseil qu'on peut donner à des jeunes artistes. Ouais.
Charles Pelquin, Xavier Person, François Piron, merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la prolonger entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Ça me fait penser à la question que vous posez, François. C'est au cœur dans son cours dans l'école d'art de Bordeaux. Il pose la question aux élèves qu'il reprend de Deleuze, de Kurosawa, nous autres samouraïs, que sommes-nous aujourd'hui? Et finalement, qu'est-ce qu'un samouraï au moment où les valeurs des samouraïs ont plus vraiment cours? Et donc il amène les étudiants à poser la question, qu'est-ce qu'un artiste aujourd'hui, à quoi ça sert? Et à des tout jeunes artistes, ils les invitent à réfléchir, parce qu'effectivement, ils ont des mots d'ordre, des consignes qui sont dans l'air du temps. Si on s'arrête, quand on devient jeune artiste, cette question... Qu'est-ce qu'être un artiste aujourd'hui? Effectivement, c'est votre exposition, elle permet de réfléchir un peu à ces questions-là.
Ouais, et puis moi, ça m'intéressait de réinscrire le champ de vision, pas seulement justement dans la question du monde de l'art, mais aussi des cultures. Les contre-cultures, en fait, c'est peut-être un gros mot, hein, les contre-cultures, mais pour moi, quelqu'un comme Pascal Dury, par exemple, ça appartient au champ des contre-cultures. Il a fabriqué des fanzines, il est au croisement entre différents mondes. Je crois que dès qu'on se place un peu en porte-à-faux avec son milieu, c'est vrai, entre guillemets, naturel, on se met un peu en contre-culture, en fait.
Oui, parce qu'en fait, il me disait, maintenant, je ne fais plus que de la poésie. Mm. Quand il s'est mis à Poésie prolétaire, après, on a fait Facial, qui était une petite revue, et après, on a fait Les Patates, et il me disait, je ne fais plus que ça, en fait. Et il avait une vraie lecture, parce que souvent, il m'appelait au téléphone, et il me lisait, par exemple, il me parlait de Robert Walser, par exemple. Mais il avait une lecture très très belle, quoi. Il avait une voix très douce et c'était vraiment fascinant, quoi. Comment il parlait de la littérature, il y avait des bouquins partout, chez lui. Mmh. On pouvait même pas s'asseoir dans un canapé. Tout était. Il recouvrait tous ses livres, en fait.
Il faut qu'on s'occupe de Pascal Dury.
Ah ouais, complètement. Ouais.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique, Jean-Michel Bernot, à la préparation, Thierry Beauchamp, à la réalisation, François Connac. Vous trouverez les actualités de Charles Pennequin, Xavier Person et François Piron sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais d'ici là, c'est l'heure de la méthode scientifique et par conséquent de Nicolas Martin.